maintenant. Voilà, donc je vais commencer par reconsidérer avec vous le sujet qui était donc proposé pour clore et parachever donc ce parcours d'automne urbanisme réglementaire. Donc, vous êtes consulté par Monsieur Dutronc, propriétaire d'une scierie sur une commune du département de la Gironde, appelée Saint-Urbain-la-Forêt. Toutes les installations de la scierie sont placées en zone N, donc en zone naturelle, du plan local d'urbanisme communal. Il s'agit donc d'un PLU adopté par le conseil municipal de Saint-Urbain-la-Forêt. Aucun zonage complémentaire n'est donc effectivement établi sur ce périmètre. On doit donc comprendre qu'il n'y a pas d'espace boisé classé, pas d'emplacement réservé ou de stécal, par exemple. Le terrain est composé des parcelles 101, 102, 103 et 104. Alors, il y avait un petit plan qui devait vous permettre de considérer cet élément-ci. Alors, je suis en pleine page, donc je ne vais pas pouvoir le descendre. Je vais le descendre juste un tout petit peu. Voilà, hop. Donc, mon sujet, le voici. Donc, je poursuis. Donc, lors des méga-feux, donc le plan, pardon. Le plan, le voici, donc les parcelles donc 101, 102, 103 et 104 qui effectivement figurent bien dans la zone naturelle du plan local d'urbanisme communal. Lors des méga-feux survenus l'été dernier, l'emprise de Monsieur Dutronc a été sinistrée. Un hangar dans lequel a été donc été entreposé des scies mécaniques et autres machines a été totalement détruit. Ce hangar était neuf, il venait d'être achevé en avril 2022 sur la parcelle 102. Donc celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez où je passe mon doigt avec ma souris, mais enfin, en tout cas, vous l'avez, je l'imagine en tout cas, donc bien localisé. Le permis de construire donc ce hangar avait été délivré le 3 octobre 2021 par le maire de la commune. Précédemment, un certificat d'urbanisme opérationnel avait été délivré sur le terrain le 4 avril 2021. Ayant été indemnisé par sa compagnie d'assurance, Monsieur Dutronc désire à présent reconstruire ce hangar le plus rapidement possible. Il souhaiterait y apporter toutefois une petite évolution en prévoyant un local de bureau à l'intérieur de celui-ci. Donc, on entend un local de bureau à l'intérieur du volume du même hangar et donc d'un volume qui serait conservé tel que. Donc, il s'agit donc de créer de la surface de plancher à l'intérieur du volume existant sans augmentation finalement d'emprise au sol du bâtiment. Le local serait de 30 mètres carrés de surface de plancher. En effet, le petit bureau indépendant situé sur la parcelle 103 a été lui aussi détruit par les incendies. Mais pour des raisons d'économie, M. Dutronc ne souhaite pas reconstruire isolément. La hauteur du hangar et sa surface d'emprise au sol, 723 mètres carrés, resteront donc les mêmes néanmoins. Donc, le petit bureau ici va donc être intégré désormais dans le cadre donc du volume à reconstruire. M. Dutronc a toutefois plusieurs sujets d'inquiétude. Alors, avant qu'on entre peut-être dans la résolution de chaque question, il y en avait deux. Je crois que ce qui est important dans l'analyse que vous faites du sujet, c'est évidemment au brouillon, alors, brouillon papier ou brouillon informatique, de procéder évidemment au relevé dans le libellé du sujet des éléments de droit qui méritent de retenir votre attention. Bon, évidemment, d'abord, on sait qu'on est en zone naturelle, ensuite qu'on a une construction qui a été donc détruite. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser dès cet instant donc au droit à la reconstruction à l'identique ouvert par l'article L111-15 du Code de l'urbanisme. On doit prendre en considération par ailleurs que ce bâtiment ayant été sinistré a été l'objet d'un permis de construire. Permis de construire qui avait donc été délivré de ce point de vue-ci le 3 octobre 2021 et que sur le terrain avait été au surplus délivré un certificat d'urbanisme opérationnel. Il y a une balance à faire des éléments qui sont considérés comme étant véritablement utiles et ceux qui ne le sont pas. Et dès ce stade, au stade de l'analyse, vous pouviez donc, par exemple, décider d'écarter le certificat d'urbanisme opérationnel dont on comprend qu'il a été déposé pour faire en sorte que la demande de permis de construire soit. Donc, pour le coup, déposé sur une connaissance du terrain assurée par ce certificat d'urbanisme. Et ce certificat d'urbanisme datant du 4 avril 2021, alors vous n'étiez pas censé le savoir, mais n'avait pas beaucoup d'importance au sens où, d'une part, l'origine des certificats d'urbanisme n'est pas, donc pour le coup, programme de ce parcours urbanisme réglementaire. Et puis d'autre part, on ne sait pas si ce certificat d'urbanisme avait l'avantage de stabiliser une réglementation antérieure établie sur le terrain par un PLU dont on ne connaît pas la date d'entrée en vigueur. Et puis enfin, mais ça vous n'étiez peut-être pas censé le savoir, un certificat d'urbanisme n'est valable que pendant 18 mois. Or, traitant le sujet en février 2023, on est presque à 24 mois. Donc en l'état, ce CU n'avait pas beaucoup d'incidence. Par contre, la délivrance d'un permis de construire antérieur à ce bâtiment, à la réalisation de ce bâtiment, prouve que celui-ci a été réalisé donc de façon régulière. Alors, on va considérer cet élément premier qui est posé dans le cadre de la première question, mais cet élément d'analyse, cette analyse préalable du contexte, elle est importante pour ne pas oublier de traiter des parties du sujet qui présenteraient un intérêt particulier ou qui présenteraient effectivement une gravité certaine dans le traitement du sujet parce qu'il faudrait absolument les prendre en considération. Alors la première question qui vous est posée, donc Monsieur Dutron se pose la question de savoir si son projet ne risque pas d'être refusé par le maire au motif de la vulnérabilité du terrain. À ce sujet, le maire lui a expliqué qu'il ne souhaitait plus prendre de risques pour la commune. Il l'a informé qu'à l'avenir, il solliciterait le préfet pour qu'il signe à sa place tous les arrêtés autorisant des constructions au secteur forestier. Alors, il y avait dans cette première question, finalement, deux sous-questions. La première sous-question était de considérer la capacité pour le maire à laisser le préfet signer les actes à sa place concernant des constructions au secteur forestier. Donc, évidemment, cela faisait référence au contenu de la séquence identifiée des acteurs, dans le cadre de laquelle nous avions vu que la délivrance des autorisations d'urbanisme en application de l'article 422-1 du Code de l'urbanisme n'est pas assurée dans une commune couverte par un PLU par le préfet, ni même par le maire au nom de l'État, mais bien par le maire au nom de la commune. Donc, comme le maire agira au nom de la commune, il n'est pas le subordonné hiérarchique du préfet, lequel agit donc lui de son côté au nom de l'État. Il est donc strictement impossible pour le maire de se décharger de cette compétence. On sait qu'il est en mesure de le faire au profit du président de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune est rattachée, mais il ne peut pas, et telle n'est pas prévue, cette option n'est pas prévue par le code, il ne peut pas donc finalement transmettre ou transférer, ou déléguer, quelques modalités que ce soit en la matière sont à écarter de toute façon, sa signature donc au préfet. Ça c'était la première information. Ensuite, au-delà de l'aspect institutionnel ou de la compétence, il importait de considérer aussi la vulnérabilité du terrain. Il se pose la question de savoir si son projet ne risque pas d'être refusé par le maire au motif donc de la vulnérabilité du terrain. Alors, on entend la vulnérabilité du terrain au feu de forêt, vulnérabilité avérée par les méga-feux de l'été dernier. Il fallait donc là, cette fois, faire valoir que cette vulnérabilité pouvait être prise en compte au travers de la conformité du projet à l'article R111-2 du Code de l'urbanisme, lequel prévoit que le projet peut être refusé ou accepté sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le projet, je résume, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Alors, pour autant, la question de savoir si la vulnérabilité du terrain est si évidente que cela et qu'un refus serait donc inexorable, si j'ose dire, méritait d'être analysé, en tout cas d'être débattu, au motif de ce que, d'abord, la vulnérabilité du terrain n'est pas spécifique au terrain. Ces méga-feux ont concerné, chacun le sait bien, des territoires extrêmement vastes. Et que, de ce point de vue-ci, ces territoires extrêmement vastes ne vont pas devenir, par l'effet de cet événement, stricto sensu, inconstructibles. Ça, c'est donc un premier élément. Dans les caractéristiques de la situation, il fallait donc, dans l'analyse, être capable de lever cette première observation. La deuxième observation qu'il convenait de mettre en œuvre était que la motivation d'une vulnérabilité devait être bien établie dans un arrêté de refus et que l'arrêté de refus ne pouvait être justifié que s'il n'était pas possible d'autoriser le projet sous réserve de prescription. Or, la réalisation de cette construction, de cette scierie, pouvait être accompagnée, évidemment, de mesures permettant de lutter plus efficacement contre l'incendie. Alors, Incendie qui est, c'est finalement une solution inverse à ce qu'on a l'habitude de voir. Ce n'est pas l'incendie du bâtiment qui pourrait être susceptible de se propager à la forêt, mais c'est bien un incendie de forêt qui pourrait menacer, donc, de ce point de vue-ci, la construction. La construction serait donc, de ce point de vue-ci, menacée par son environnement, et à ce titre, on peut donc considérer qu'un déboisement assez large autour du bâtiment lui-même au moment du reboisement, enfin, au moins un non-reboisement, pour prendre effectivement l'expression la plus adéquate, puisque l'incendie de forêt a évidemment décimé tous les arbres autour de l'exploitation. Un non-reboisement intense autour du bâtiment pourrait potentiellement ne pas l'exposer à une propagation de cet incendie. La réalisation de points d'eau permettant de lutter efficacement contre cet incendie sont autant de mesures qui pouvaient amener à considérer qu'il y a une vulnérabilité, mais d'une part, elle n'est pas spécifique, et d'autre part, elle peut être finalement compensée par des mesures et des prescriptions qui pourraient justifier que le refus sec, pourrait-on dire, au titre de l'article R111-2 ne soit pas donc, de ce point de vue-ci, forcément à craindre. En tout cas, voilà le niveau de réponse que j'attendais sur cette première question. Je ne sais pas si ça appelle chez vous des remarques particulières. Je vois que certains nous ont rejoints et certaines. Donc, j'ai pris le parti de commencer parce qu'on part sur le corrigé de l'épreuve d'ADS à 9h45. Je ne voulais pas, de ce point de vue-ci, perdre trop de temps sur ces éléments, sur, d'une part, la compétence du maire. Alors là, il n'y a pas de sujet de discussion. On est bien d'accord pour dire qu'il s'agissait simplement d'une connaissance stricte du domaine de compétence du maire fondée sur l'article 422-1. Par contre, sur la vulnérabilité du terrain, il fallait être capable d'aller chercher l'article R111-2, mais de bien nuancer les conditions d'application de cet article R111-2. Est-ce que les uns et les autres avaient le souhait de vous exprimer ou de faire valoir une remarque? Je vous ai fait remonter vos copies corrigées avec mes annotations, donc vous avez peut-être pu considérer ce qui était de ce point de vue, donc susceptible d'être reproché au traitement de cette question dans la première donc, question qui vous était posée. S'il n'y a pas de question, et il n'y en a pas visiblement, je propose donc qu'on enchaîne sur la deuxième question. Monsieur Dutronc, alors je vais passer sur l'autre, pardon, excusez-moi, donc je réouvre cette partie-ci. Monsieur Dutronc a appris que la commune de Saint-Urbain-la-Forêt était par ailleurs couverte par un schéma de cohérence territoriale approuvé en 2021 par délibération du syndicat intercommunal chargé de son élaboration. Donc, un SCOT ayant été approuvé en 2021 donc par délibération du syndicat compétent pour l'élaborer. La commune, parce qu'elle est très largement recouverte de forêts, se trouve identifiée au sein de ce document, donc au sein Scott, comme commune intégrant une trame verte et plus précisément comme commune accueillant un corridor écologique non fonctionnel. Monsieur Dutronc vous demande de lui présenter sous forme d'une note vos observations sur le projet de reconstruction de son hangar et sur ses chances d'aboutir. Il fallait donc être en mesure de considérer la conformité de son projet de reconstruction aux dispositions d'urbanisme applicables au terrain pour pouvoir effectivement analyser de ce point de vue-ci les chances pour lui de prétendre à cette reconstruction. Alors, parmi les documents et au-delà de l'extrait de règlement graphique, vous aviez donc le règlement écrit, en tout cas un extrait du règlement écrit du PLU de Saint-Urbain-la-Forêt, les eaux naturelles donc, et forestières à protéger N au titre de l'article R151-24 auquel s'appliquent les dispositions du titre 5 sur le secteur de la commune équipée ou non à protéger, donc on a une ressucée, pourrait-on dire, de l'article R151-24, qui n'est pas du tout accompagné d'une valeur ajoutée quelconque. Hein. On trouve donc bien les différentes entrées qui sont prévues à l'article R151-24 et peuvent être autorisées en zone N. Là encore, on est sur une restitution du code de l'urbanisme. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par des CUMA. Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changement de destination et aménagement prévus donc par les articles L151-11, L151-12 et L151-13. Il me semble là encore qu'on est sur l'article R111, alors R151-25 de ce point de vue-ci, c'est-à-dire l'article qui suit très exactement celui qui détermine les conditions de classement en zone naturelle des terrains. Là encore, le PLU ne s'en tient que à la restitution de dispositions qui sont opposables par ailleurs et qui donc ne sont pas effectivement spécifiques. Oui, c'est très exactement donc la partie du bas, le paragraphe du bas, donc peuvent être autorisés en zone N, c'est précisément donc l'article R151-25 qui s'y trouve établi. Donc finalement, le PLU de ce point de vue, en tout cas l'extrait qui est cité ici, n'apporte pas de valeur ajoutée en la matière. Par contre, on a effectivement un extrait du document d'orientation et d'objectif du SCOT, DO du SCOT applicable, établir des bases favorables à la restauration de la fonctionnalité écologique des corridors identifiés comme non fonctionnels. Et donc, on a donc un projet ou une prescription 19, les communes ou communautés de communes prendront en compte dans leurs documents d'urbanisme des corridors écologiques non fonctionnels. Les espaces naturels et agricoles couverts par ces corridors doivent conserver leur vocation afin de ne pas aggraver la perte de fonctionnalité du corridor. Et la deuxième, les communes et communautés de communes œuvreront à la restauration de la fonctionnalité écologique de ces corridors en cherchant à retrouver de la perméabilité écologique sur les secteurs couverts par les corridors. Alors, on observera, alors la reconquête de la perméabilité, un deuxième alinéa pourra prendre la forme de zones relais gérées de façon adaptée ou encore restaurées ou recréées, constituées de milieux agricoles naturels compatibles avec les milieux de référence de la sous-trame considérée. Alors, j'avais pris le parti de vous citer effectivement un extrait de DO qui a été volontairement restitué de façon extrêmement limitée. Hein. Vous voyez que le document qui est donc reproduit est pas très long. C'était l'idée, c'est-à-dire de ne pas vous mettre de ce point de vue-ci dans l'obligation de lire un document qui serait de ce point de vue-ci relativement long. Il a donc été préféré donc de ce point de vue-ci de vous imposer simplement la lecture de deux orientations. La première, la 19, s'impose donc pour le coup aux communes dans la mise en œuvre des dispositions du SCOT dans leur document d'urbanisme. Il est bien écrit, les communes dans leur document d'urbanisme doivent prendre en compte les corridors écologiques non fonctionnels. La deuxième ne fixe pas une obligation spécifique à leur document d'urbanisme, mais plus généralement à leur comportement et à leur prise de décision, finalement à leur action plus générale sur ces corridors-ci. Donc en la matière, pour déterminer ce qui était demandé dans le cadre de cette question de la conformité de la reconstruction, donc pour le coup aux dispositions d'urbanisme, M. Dutronc vous demande de lui présenter sous la forme d'une note vos observations sur le projet de reconstruction et sur ses chances d'aboutir. Il fallait donc considérer trois choses. D'abord, la question de savoir si le schéma de cohérence territoriale, qui est le plus haut placé dans la hiérarchie, pouvait avoir à agir par contrainte sur la réalisation de ce projet, d'une part. D'autre part, sur la conformité du projet à la réglementation établie dans le cadre du PLU et le zonage N, ainsi que les dispositions du règlement qui, comme on l'a vu, sont des copier-coller du code de l'urbanisme qui donc s'appliquent en la matière. Et puis, troisième disposition, troisième règle susceptible d'être convoquée, eh bien évidemment, l'article L111-15 qui permet de reconstruire à l'identique un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans, nonobstant les dispositions d'urbanisme applicables sur le terrain. Ce que moi j'ai reproché à la plupart d'entre vous, dans le cadre de leur copie, c'est d'avoir finalement percuté tout de suite sur la reconstruction en allant chercher finalement immédiatement la conformité du projet à l'article L111-15, c'est-à-dire vérifier que les conditions de l'article L111-15 sont bien réunies. En l'état, agir de la sorte est la preuve d'une forme d'illogisme, puisque l'article L111-15 doit permettre la reconstruction à l'identique dans la mesure où celle-ci ne serait pas déjà possible par ailleurs. D'ailleurs, dans la mesure où cette reconstruction ne serait pas conforme aux dispositions d'urbanisme applicables sur le terrain. Donc, c'est finalement une sorte d'ultime recours, j'allais dire de joker, c'est un peu l'idée, d'atout dont on peut se servir dans la mesure où le projet ne serait pas réalisable. Donc, pour savoir si on a besoin de s'en servir, ben, il faut, dans un premier temps, considérer de ce point de vue-ci la faisabilité du projet au regard des dispositions qui s'appliquent sur le terrain. Donc, en l'état, il y avait trois temps de traitement de la question. Le premier, d'abord, les dispositions du SCOT approuvées en 2021. Alors, ces dispositions de SCOT approuvées en 2021, on l'a vu, portent à la fois sur le contenu du document communal, du PLU, et l'action générale de ce point de vue-ci, des collectivités concernées donc, en matière de préservation de ces espaces de biodiversité. Si on considère d'abord l'opposabilité du schéma de cohérence territoriale, il est important, et ça, globalement, je ne l'ai pas toujours bien retrouvé dans le cadre de vos copies, c'est pourtant un élément d'analyse juridique important, il fallait que le discours porte évidemment sur l'opposabilité et l'effectivité juridique du SCOT, et pour ce faire, il fallait donc citer l'article L142-1, imposant d'une part que les PLU soient compatibles avec les orientations du schéma de cohérence territoriale établi dans son document d'orientation et d'objectifs, donc obligation de compatibilité du PLU de Saint-Urbain-la-Forêt à ce schéma de cohérence territoriale, et d'autre part que le schéma de cohérence territoriale pouvait s'appliquer à certaines opérations d'urbanisme du fait de leur taille et de leur envergure, dont la liste figure très exactement à l'article R142-1, les opérations foncières et d'aménagement mentionnées donc à l'article L142-1 qui sont susceptibles d'entretenir une relation immédiate de compatibilité avec le SCOT sont les zones d'aménagement concertées, les lotissements, les remembrements et les constructions portant sur une surface de plancher de plus de 5000 m². Donc, à ce titre, il convenait de faire valoir que le SCOT ne pouvait pas être immédiatement opposable, et ça, peu de gens l'ont fait valoir, du fait des conditions d'application de l'article R142-1 à la reconstruction de M. Dutronc, puisque son projet n'est absolument pas susceptible de répondre aux conditions d'application fixées par l'article R142-1, il ne porte pas sur une surface de plancher de 5000 m² en la matière. Donc le SCOT ne peut pas servir à délivrer un refus de permis de construire, ni même une prescription dans le cadre de l'instruction de ce permis de construire, puisqu'il n'est pas susceptible de s'appliquer immédiatement donc, au projet de reconstruction de M. Dutronc. Par contre, et vous l'avez fait en règle générale, peut se poser la question de savoir si, et notamment par rapport au point 19, les communes et les communautés de communes prendront en compte dans leurs documents de risque les corridors écologiques non fonctionnels, si le PLU de Saint-Urbain-la-Forêt est bien compatible avec le SCOT. Or, en la matière, le terrain d'implantation du projet étant situé en zone naturelle, il était assez évident que, de ce point de vue-ci, le zonage naturel et les conditions applicables à ce zonage naturel fixé dans le cadre du règlement du PLU, laisse à penser que le PLU, sur ce point-là, n'allait pas à l'encontre d'une orientation du SCOT, et il importait aussi de faire valoir que deux éléments sont effectivement à prendre en considération. D'une part, la relation de compatibilité est une relation qui suppose un contrôle global sur l'intégralité du territoire et non pas un contrôle point par point. C'est ce que dit la jurisprudence du Conseil d'État de 2017 sur ce fameux contrôle de compatibilité, qui est un contrôle qui se caractérise par sa globalité. Et puis, deuxièmement, autre point qui, de ce point de vue-ci, est important, bien, on n'a pas, dans le libellé du sujet, la date à laquelle le PLU communal a été approuvé. Et ça, c'est assez problématique, parce qu'on ne sait pas si ce PLU communal est antérieur ou postérieure, donc pour le coup, à l'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale. Évidemment, s'il est postérieur, il a forcément été contrôlé dans sa compatibilité avec ce SCOT. S'il est antérieur, il se peut que, de ce point de vue-ci, il soit soumis à l'obligation d'une mise en compatibilité dont on sait qu'elle est maintenant fixée sous un délai d'1 an, le conseil municipal devant fixer par délibération le principe soit du maintien du document, soit de son évolution. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait un indice de ce que le PLU a été modernisé, puisque dans le cadre du règlement de la zone N, il était mentionné l'article R151-24. L'article R151-24 ne s'applique qu'au PLU dont l'élaboration aura été lancée après le 1er janvier 2016, ce qui était plutôt un signe de modernité, c'est-à-dire d'actualité du plan local d'urbanisme. Mais en tout cas, sur la compatibilité entre le PLU de la commune et le SCOT, au titre de l'orientation 19 du document d'orientation et d'objectifs, il importait d'abord de dire que tout laissait à croire que c'était bien le cas puisqu'on a un zonage naturel, on ne se trouve pas sur une zone U ou une zone à urbaniser en la matière, ni même sur un STECAL. Deux, on n'a pas de ce point de vue-ci d'éléments nous permettant de savoir effectivement dans quelle mesure le PLU est déjà compatible ou pas en termes d'antériorité ou de postériorité par rapport au SCOT. Mais le point le plus important, celui que je n'ai pas assez retrouvé, c'est que le SCOT ne pouvait pas s'appliquer immédiatement à l'opération en cause, du fait donc de l'application de l'article R142-1. Alors, certains d'entre vous ont considéré que on pouvait notamment reprocher donc au PLU communal de ne pas avoir établi d'espace boisé classé et d'un zonage complémentaire. C'est une piste, mais ce n'est pas une piste qui, de ce point de vue-ci, est considérée comme étant nécessairement suffisamment établie ou étoffée pour pouvoir reprocher quoi que ce soit à l'auteur du PLU. Voilà pour le SCOT. Sur le PLU, on a donc un règlement de zone N qui n'est qu'une restitution des articles R 151, 24 et 25 du Code de l'urbanisme. En l'état, donc, peuvent être autorisées en zone naturelle les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière. Alors, évidemment, une scierie peut difficilement ne pas être considérée comme étant un local ou une construction accueillant une exploitation forestière. De ce point de vue-ci, sur le principe, la reconstruction de la scierie devrait être considérée comme étant non interdite par le règlement donc, de la zone N. Alors, il fallait mentionner potentiellement qu'il y avait d'autres considérations à prendre, notamment évidemment les autres dispositions du règlement, mais que sur le principe, il n'y avait pas de contradiction majeure entre l'installation ou la réinstallation de la scierie et le règlement de la zone N, et que de ce point de vue, il y avait un principe de conformité entre cette reconstruction et l'application de ces dispositions. Donc, arrivé à ce stade, 3, y a-t-il lieu d'aller convoquer l'article L111-15 au vu des conclusions établies sur la compatibilité au SCOT qui ne se pose pas, la compatibilité du PLU au SCOT qui semble être avérée et la conformité du projet au règlement de la zone N, on peut potentiellement se dire qu'il n'est pas utile d'aller convoquer l'article L111-15. Mais dans le doute, et vous l'avez systématiquement fait, on peut donc vérifier cet élément-ci et considérer la façon dont l'article L111-15 pourrait conditionnel, donc être utilisé. Bon, évidemment, plusieurs conditions. Condition d'abord d'antériorité, le sinistre ayant eu lieu l'été dernier, aucune difficulté sur le fait qu'on est sur un délai de moins de 10 ans. Le bâtiment, deuxième condition dont la reconstruction est envisagée, doit être régulier, pas de difficulté là encore. Notre permis de construire, de ce point de vue-ci, et le certificat d'urbanisme opérationnel antérieurement, témoigne de ce que le projet a été tout à fait régulièrement établi et qu'il est donc bien un projet autorisé qui bénéficie de l'application de l'article L111-15. Alors, il importera cependant de considérer si le PLU de Saint-Urbain-la-Forêt n'écarte pas l'application de principe de l'article L111-15, car je vous le rappelle, le PLU ou le plan de prévention des risques, dont on ne sait pas s'il existe en la matière, mais on peut présumer que tel n'est pas le cas, sinon le libellé du CIGEN aurait dû le mentionner, que le PLU, donc, potentiellement, écarte le bénéfice de l'application de l'article L111-15. Aucun élément nous permet de le vérifier en la matière. Mais c'était une condition à vérifier. Enfin, quatrième condition, l'évolution de la reconstruction. Monsieur Dutronc envisage de réaliser, de ce point de vue-ci, un local à l'intérieur du bâtiment qu'il souhaite reconstruire, de la scierie, servant de bureau. Bon, alors d'abord, ce local de bureau, il est évidemment accessoire et lui aussi bien nécessaire à l'exploitation forestière. Cette question, elle méritait aussi d'être posée, c'est-à-dire quoi la construction accessoirement intègre un local du bureau, bureau qui, on l'aura compris, sert à la gestion administrative de l'exploitation forestière, donc de la scierie, donc pas d'inconformité à l'égard du règlement de la zone N. Mais au-delà de ça, donc, la question est de savoir si ce local qui empêche de considérer que la construction à l'identique est établie est interdite. Pas du tout, il fallait effectivement citer la jurisprudence WIS du Conseil d'État de 2016, où le Conseil d'État, vous en souvenez, reconnaît que la reconstruction à l'identique n'écarte pas, par ailleurs, la possibilité, n'empêche pas le maître d'ouvrage de procéder à des évolutions de sa construction, pour peu qu'elle soit bien conforme de ce point de vue, donc au règlement de la zone. Or, c'est là où il fallait se poser la question de savoir si le bureau en cause était susceptible d'être considéré comme étant intégrée dans un bâtiment, surface de plancher, si sa destination pouvait convenir. En l'état, il semble que cette évolution ne soit pas interdite et que, en toute hypothèse, elle soit bien intégrable ou susceptible d'être intégrée, donc, de ce point de vue, dans le cadre de la reconstruction de cette Syrie. Voilà, je suis allé un peu vite, peut-être. Je peux comprendre que vous n'en ayez pas gardé un souvenir extrêmement précis de ce sujet, mais voilà en droit ce qu'il était nécessaire de rapporter. Tout cela, au-delà du contenu que je vous restitue, avec des considérations, des consignes de forme qui restent évidemment importantes, un plan, un raisonnement et une analyse qui doivent être suffisamment fouillés. Ce n'est pas la réponse qui importe, c'est l'argumentation qui précède la réponse, évidemment. Et puis, une citation systématique des articles du Code de Lorenz qui vont bien. Alors, pas une citation in extenso, mais une référence. C'est-à-dire, là, il fallait effectivement être capable de citer L111-15, R111-2, les dispositions R152-1 applicables en matière donc, d'opposabilité du SCOT, L422-1 du Code sur la compétence du maire. Bon, vous voyez, tous ces éléments sont quand même des éléments qui sont systématiquement indispensables pour pouvoir véritablement étayer votre propos et faire en sorte que celui qui vous lit puisse vérifier la véracité de ce que vous avancez ou la juridicité de ce que vous avancez à l'appui des dispositions du code qui vont bien. Voilà ce qu'il est possible de dire de cette résolution de ce sujet qui globalement a été plutôt bien traité. Hein. De ce point de vue, il n'y a pas eu d'erreur fondamentale. La déclinaison en deux parties du sujet était faite pour vous donner un petit temps de respiration sur la première question et ne pas mêler avec la question de la compétence des questions de conformité dans un deuxième temps. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que vous souhaiteriez avoir des compléments? Est-ce qu'il y a des incompréhensions sur les observations particulières que j'ai pu établir sur vos copies, sur votre note? Non. Bon, j'espère que c'est parce qu'il n'y a pas de questions et pas parce que vous me battez froid étant donné que vous trouvez que le sujet était bien trop compliqué, que c'est totalement scandaleux de ma part de vous avoir mis un sujet sur les méga-feux, c'était quand même… J'essaye de coller à l'actualité, donc j'attends avec impatience la prochaine catastrophe pour vous soumettre un autre sujet, mais en l'état, voilà, c'est un sujet qui est assez proche d'une forme de réalité où je pense que ce type de reconstruction a dû être l'objet de demandes d'autorisation tout au long, de cette période qui nous sépare de l'été dernier. Bon, bah, écoutez, parfait. Est-ce que vous comprenez mieux ce que j'attends de vous de ce point de vue-ci sur la résolution? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas intégrées dans le cadre du traitement du sujet? C'est-à-dire, après coup, le corrigé vous laisse savoir que il y a des éléments que vous pouviez ne pas me donner au sens où vous n'avez pas compris que je les attendais. Est-ce que ça vous surprend? Bon, vous voyez que je développe des trésors d'ingénierie pour essayer de vous faire intervenir, mais je n'y arrive pas. Donc, écoutez, en l'état, on va considérer que s'il n'y a pas de questions, tout va pour le mieux. Vous êtes engagés donc respectivement maintenant dans la deuxième séquence de votre parcours de printemps, c'est-à-dire la séquence instruire pour ceux qui sont en ADS et la séquence acquérir pour ceux et celles qui sont de ce point de vue-ci dans le cadre du parcours urbanisme opérationnel, j'y arriverai. Alors pour le corriger, vous pouvez nous rappeler où nous pouvons le trouver, me demande Ghislaine. Dans l'enregistrement sonore, mais est-ce que, Ghislaine, je dois comprendre que vous voulez un corrigé écrit en bonne et due forme? Je suis un peu feignant. Hein. Si vous ne me demandez pas, je ne le fais pas. Si vous me le demandez, je vais considérer que je vais devoir le faire. Alors, il n'en existe pas, mais par contre, je peux vous présenter peut-être. Alors, ça dépend. Est-ce que vous acceptez que je rende, dans la mesure où son auteur l'accepterait, que la meilleure note soit… la copie ayant eu la meilleure note puisse effectivement être rendue publique. Est-ce que ça peut vous sembler être… Vous voyez, c'est finalement non pas la preuve que je sois capable de réaliser le sujet. Je pense que Ghislaine ne me croit pas incapable de résoudre moi-même le sujet que j'ai imaginé. Mais si dans ce cas, je crois que c'est… je crois que c'est Lionel qui a eu le meilleur résultat. Lionel est-il présent? Oui, il est là. Lionel, est-ce que dans la mesure où vous pouvez intercéder ou intervenir, vous accepteriez que votre copie soit proposée comme exemple de corrigé? Et là, je le cueille à froid, il n'est pas derrière son ordinateur, donc il ne peut pas répondre. Bah, écoutez, je lui poserai la question, et dans la mesure où il accepterait, première option, il n'accepte pas par trop grande modestie, ben c'est moi qui me cogne le corrigé et je vous le rends disponible. Le fait qu'il accepte, deuxième option, ne veut pas dire qu'il n'est pas modeste, mais ça veut dire qu'il accepte de collaborer au service public de l'enseignement supérieur. Et dans ce cas, je rendrai disponible son sujet s'il le veut bien. Encore faut-il que Lionel se réveille ou revienne dans son bureau, de ce point de vue-ci, ce que visiblement, ce qui ne se produit pas. Voilà, bonne continuation. Vous êtes bien engagé dans votre séquence instruire, là, on est au 7 avril, ou dans la séquence acquérir. Je peux profiter de la séquence pour, avant de passer dans le corrigé de la séquence ADS, enfin de l'épreuve écrite d'ADS, pour répondre à des questions. Pas de questions, pas de difficultés. Tout va. Vous n'allez pas sacrifier votre week-end pascal au droit de l'urbanisme. Vous avez pris des bonnes résolutions. Je vous sens moins proactif le vendredi que le lundi. Vous avez l'air fatigué, mais c'est normal. Eh bien, écoutez, pour celles et ceux qui attendaient le corrigé du cas pratique posé donc en devoir du parcours urbaniste réglementaire, j'ai terminé. J'attends donc maintenant celles et ceux, ils sont peut-être déjà présents, ils ont assisté peut-être à la première partie, celles et ceux qui, donc, pour le coup, alors je crois que j'avais dit 9h45, il me semble, 9h30, je ne sais plus. Mais donc, je vais le vérifier. En tout cas, je vais donc pouvoir en embrayer sur l'autre sujet. Alors, évidemment, si vous êtes engagé dans le parcours ADS, là, maintenant, au cours du parcours de printemps, vous avez tout le loisir de rester avec nous pour voir un petit peu à quelle sauce vous pourriez être mangé au mois de juillet sur un sujet qui serait donc, pour le coup, équivalent. Donc, voilà, je vais vérifier l'horaire que j'avais donné pour voir s'il faut que j'attende 9h45 ou si c'était… Ou si c'était 9h30, web conférence de correction. 9h30, donc tout le monde doit être là. C'était bien 9h30, absolument. Donc je supprime ce sujet-ci, enfin je l'enlève, paf, et j'ouvre l'autre sujet. Donc le voici. Monsieur et Madame Déter. Donc, je partage l'écran. Parfait. Donc, bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. On a un tout petit peu débordé pour le corrigé de l'épreuve écrite du parcours urbanisme réglementaire. On se retrouve donc là maintenant pour le corrigé de l'épreuve écrite du parcours ADS qui portait donc sur l'achat par monsieur Adam Déter, les bien nommés, si j'ose m'exprimer ainsi, d'un bâtiment ayant été transformé et bien tout simplement sans formalité d'urbanisme avant qu'il soit vendu. Je vous demande une seconde le temps de réafficher en pleine page le sujet. Je vais donc procéder à la lecture du sujet, si vous le voulez bien, dans un premier temps, comme je l'ai fait tout à l'heure, et puis on va ensuite envisager donc son corrigé. Donc, monsieur et madame Déter souhaite procéder à l'acquisition d'une belle propriété dans la campagne provençale. Ils ont donc trouvé une belle, véritable pépite, un beau loft de 147 mètres carrés de surface de plancher, créé dans une ancienne grange. La négociation est bien engagée. Le vendeur leur a confié deux photos, avant et après. Avant. On voit donc qu'on a une construction qui existe déjà, qui est close et couverte, qui n'est pas en état de ruine. Et après, que la même construction a été l'objet de transformations intérieures évidemment spectaculaires. Et on relèvera, la photo étant prise à Essian, qu'une partie des murs donc, du bâtiment ont été remplacés par de larges baies vitrées, voire un, d'ailleurs une partie même de la toiture qui donc disparaît de ce point de vue-ci pour accueillir une baie vitrée donc, qui est en partie inclinée et en partie droite. Bien. Donc, je remonte à l'entrée. Lors de leur premier rendez-vous chez leur notaire, M. Ndeter, ont été informés que les travaux réalisés en 2019 n'ont été précédés d'aucune déclaration préalable ou demande de permis à la mairie. Le terrain sur lequel se trouve le loft est situé en zone agricole du PLU communal. La parcelle est cadastrée 1065. Le cercle bleu autour du bâtiment est légendé comme « bâtiment identifié au titre de l'article 151.11, deuxièmement du Code de l'urbanisme ». Monsieur et Mme Deter sont tellement emballés qu'ils ont pris la décision d'acheter le bien en l'état. Ils ont compris qu'il leur faudrait régulariser les travaux après l'achat par le dépôt d'une formalité d'urbanisme. Ils vous demandent si cette régularisation est possible et de leur indiquer la formalité à accomplir en tout état de cause. Vous procéderez enfin à l'établissement d'un planning pour déterminer le délai nécessaire à l'obtention d'une autorisation purgée de recours et de retrait. Alors, il vous était possible, hein, c'était une possibilité, donc, mais pas une obligation, de présenter sous la forme d'une frise cette computation du délai permettant donc d'obtenir une autorisation purgée de recours et de retrait. Vous aurez relevé vous-même la petite coquille sur le « mais » qui est ici. Les déter vous posent par ailleurs la question de savoir si d'ici la régularisation, ils se trouvent exposés à certaines poursuites ou s'ils sont privés de certains droits. Alors, avant qu'on entre peut-être dans le corrigé, est-ce que vous avez trouvé sujet… Alors, c'est peut-être un peu facile pour vous de vous positionner maintenant que vous avez vos notes, vos commentaires, mais l'avez-vous trouvé particulièrement difficile? Est-ce qui vous a posé des difficultés? Est-ce que vous voulez vous exprimer avant qu'on entre dans son corrigé sur le sentiment que vous avez sur ce sujet-ci? Ou pas? Bon, visiblement, pas de difficultés particulières. Il n'a pas créé d'onde de mécontentement où vous n'avez pas considéré qu'il était très nettement plus difficile que les autres de ce point de vue-ci posé donc tout au long donc des séquences au cours du parcours donc ADS d'automne. Alors première chose à faire donc en l'état, c'est de respecter à mon sens puisqu'on vous demande de réaliser une note, de respecter tout simplement le régime habituel que je vous propose de suivre, c'est-à-dire la méthodologie, c'est-à-dire qualification juridique du projet, quel est ce projet, à quelle qualification répond-il, localisation de la parcelle, détermination de la règle applicable, application à l'espace. En prenant le parti de suivre ce finalement raisonnement en quatre temps, que j'estime assez efficace, on peut tout à fait résoudre donc cette consultation sans grande difficulté. C'est en tout cas ce que moi je vais vous proposer. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Vous pouviez, en toute hypothèse, traiter le sujet par un plan différent, par une structuration qui est différente. Ce qu'il faut, c'est que votre travail soit structuré, argumenté et que l'analyse que vous allez réaliser des contextes qui vous sont proposés soit bien menée. C'est parfois sur ces éléments-là que j'estime que vous allez trop vite ou que vous n'apportez pas les pierres à l'édifice qui sont pourtant nécessaires. Premièrement, qualification juridique du projet. Le projet est un travail sur construction existante, au sens des dispositions du livre 4 du Code de l'urbanisme. Donc, c'est un projet qui constitue donc un travail sur construction existante. Pourquoi ? Parce que la grange, avant d'accueillir les travaux, existait à la fois physiquement et juridiquement, ce que prouve la photo dite avant travaux. Donc, la grange existait déjà. On était donc face à une construction qui présentait véritablement une solidité, un volume qui, en l'état, ne souffre pas de contestation sur le fait qu'elle soit existante avant travaux. Alors, travaux sur construction existante qui consistent à changer très vraisemblablement l'aspect extérieur de la construction du fait de l'ouverture de larges baies sur au moins l'un des murs, ce que nous laisse avoir la photographie, et puis évidemment, changement d'occupation du bâtiment. La grange, par son nom même, laisse à penser que le bâtiment était à destination agricole, Il ne semble pas que l'usage de cette construction soit distinct de cette destination agricole avant les travaux, hein, en l'état. Et l'occupation qui en est faite après travaux est une occupation d'habitation. Il y a donc eu un changement de destination. Donc, on a un changement d'aspect extérieur, un changement de destination. On ne peut pas déterminer s'il y a un changement de volumétrie du bâtiment. Il ne semble pas que des extensions ni horizontales ni verticales aient été réalisées de ce point de vue-ci. On écartera donc ce principe. Donc, on est face à un travail sur construction existante qui se caractérise par un changement d'aspect extérieur et par la réalisation d'un changement de destination. Deuxième étape du raisonnement, la localisation de la parcelle d'implantation du projet. Alors, le terrain est situé, comme il est écrit dans le libellé du sujet, donc dans le cadre d'une commune qui, de ce point de vue-ci, est soumise à un plan local d'urbanisme. La parcelle qui apparaît ici est située dans une zone agricole. Cela paraît assez clair sur l'extrait de zonage qui est ici. Donc, une zone agricole du plan local d'urbanisme. Elle fait par ailleurs l'objet donc d'une identification ou d'une désignation particulière avec ce cercle bleu qui donc la soumet de ce point de vue-ci à des dispositions particulières, notamment l'article 51.11, deuxièmement du code de l'urbanisme. Donc, commune en PLU, zonage agricole et zonage complémentaire, en tout cas indication complémentaire sur le zonage. Voilà donc pour la localisation de la parcelle. Donc, on n'a pas de connaissance de plan de prévention des risques, de servitude d'utilité publique. On ne sait pas s'il y a un plan de prévention des risques, s'il y a un monument historique aux abords. En tout cas, on n'a pas ces éléments-là. Donc, on peut considérer que sur la localisation de la parcelle, on est suffisamment donc avancé. Alors, détermination de la règle applicable. Bon, la règle applicable donc, en matière de zone agricole se trouve être donc le principe selon lequel l'article R151-22 et 23 plus exactement impose que seules sont autorisées en zone agricole les constructions nécessaires aux exploitations agricoles, les équipements collectifs. Mais ça, ce sont des constructions nouvelles, donc ça ne nous concerne pas. Concernant les travaux sur construction existante, sont autorisées les extensions des bâtiments d'habitation existants, les annexes à ces bâtiments d'habitation, mais les annexes sont des constructions nouvelles, et les changements de destination. Changement de destination qui, en vertu de l'article 151-11, deuxièmement, de ce point de vue-ci, suppose que le bâtiment soit désigné au sein donc de la zone agricole sur le règlement graphique, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Et le changement de destination est soumis en zone agricole à l'avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles. Et j'ai fini, forestier, la fameuse CDPNAF. Voilà, là, on a bien, donc pour le coup, déterminé au moins la problématique de la conformité du projet. Ensuite, sur la détermination de la règle applicable, les époux des terres vous demandent quelle est la formalité qu'ils vont pouvoir utiliser pour régulariser. Donc, il semble... des règles s'appliquent pour pouvoir considérer la régularisation, on va le voir dans l'application à l'espèce. Quant aux règles relatives à la formalité, eh bien, il fallait rappeler, et j'y tiens beaucoup, même si c'est évidemment un peu théorique, qu'en vertu de l'article R421-13 du Code de l'urbanisme, les travaux sur construction existante sont normalement dispensés de formalité. Et que seuls ceux qui sont mentionnés aux articles R421-14 et suivants sont soumis potentiellement à déclaration préalable et à permis de construire. Voilà le respect de la règle. Enfin, en tout cas, le rappel de la règle applicable. Donc, 1. Qualification juridique du projet, changement de destination et aspect extérieur modifié. 2. Localisation de la parcelle. 3. Détermination de la règle applicable. Maintenant qu'on a mis en place tout cela, qu'on a le matériau juridique qui va nous permettre d'entrer dans l'application à l'espace, eh bien, 4, on peut passer donc à l'application à l'espèce. On va donc pouvoir enfin traiter le sujet. Mais voyez qu'on l'a fait après, d'une part, une qualification du projet, d'autre part, une situation du projet, et troisièmement, en ayant pris le parti d'aller chercher les règles qui s'appliquent au projet. Donc, parmi les questions qui vous sont posées dans le cadre de la note que vous devez rendre, il vous est demandé d'abord quelle est la formalité qu'ils doivent, c'est les époux des terres, accomplir pour pouvoir, donc de ce point de vue-ci, prétendre à la régularisation de la transformation de cette construction. Alors, de ce point de vue, il faut considérer qu'on a bien à la fois un changement d'aspect extérieur, comme on l'a dit, et une atteinte aux structures porteuses et aux façades du bâtiment, cumulé avec un changement de destination, qui d'ailleurs s'opère entre sous-destination exploitation agricole et sous-destination habitation. Ce qui donc, en application de l'article R421-14, je ne sais plus quelle est la lettre qui le prévoit, mais je peux le trouver. Donc, en application de l'article R421-14, relève forcément du régime du permis de construire. Donc, R421-14 relève du permis de construire. C'est le petit C. Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination. Il faudra donc un permis de construire. Alors, ce permis de construire sera d'ailleurs un permis de construire. Alors là, il y a eu des hésitations. Certains ont dit, mais comme la grange qui est l'objet des travaux est autre chose qu'une maison individuelle, il faut un PC. Mais ce qui compte, ce n'est pas tant, en réalité, la situation de la construction avant travaux. En fait, c'est le projet. Et le projet, c'est bien de créer une maison individuelle. Donc, de ce point de vue-ci, il suffit de considérer que, effectivement, une demande de PCMI convienne. Le fait de recourir à un PC ne peut pas vous être reproché de ce point de vue-ci, parce qu'une formalité qui est surabondante n'est jamais considérée comme étant illégale. Mais théoriquement, on devrait passer par un PCMI, une demande de permis de construire maison individuelle. Alors, cette demande de PCMI s'instruit, parce qu'on nous demande de bien considérer cet élément-ci, dans un délai de 2 mois, en application de l'article R423-23. 2 mois, mais l'on sait que la CDPENAF doit être consultée pour rendre un avis conforme. Donc, ce délai de 2 mois devra, au cours du premier mois d'instruction, faire l'objet d'une notification de prolongation au pétitionnaire, donc au déter, et la consultation de la CDPENAF supposera effectivement l'allongement du délai par un allongement de 2 mois, puisque c'est une commission départementale. Et l'article R423-25 du Code de l'urbanisme, cet article R423-25 prévoit, dans le cadre de son petit A, que le délai d'instruction est majoré de 2 mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale. Donc, la CDPENAF étant une commission départementale, on doit donc considérer qu'il y a, de ce point de vue-ci, donc un matière à déposer, donc une demande de permis de construire sur une demande de PCMI qui sera prolongée de 2 mois. Donc, 2 plus 2 égale 4. Le délai d'instruction, la demande d'autorisation devant être déposée pour la régularisation de leur construction par les déters prendra 4 mois. Alors, il fallait partir d'une date. Pour le coup, donc le sujet était à la date du 8 février, on pouvait donc considérer qu'il fallait peut-être un petit temps de latence. Moi, je vous propose de partir de la date du 1er mars. Si on part d'un dépôt de permis de construire au 1er mars, on pouvait d'ailleurs prendre en considération un autre point qui pouvait avoir une importance particulière, c'est que comme le loft faisait 147 mètres carrés de surface de plancher, pour peu que ce soit monsieur et madame Déter, personne physique qui dépose, il n'était pas nécessaire de recourir à un architecte et que de ce point de vue-ci, il y avait peut-être moins de temps de latence pour déposer cette demande de permis. Stéphane, vous vouliez prendre la parole peut-être, non ?
Oui, je voulais faire repréciser, comme c'est un changement de destination, en vue d'un appartement, maison individuelle, donc on applique bien 2 mois, si j'ai compris, pour les PC maison individuelle.
C'est ça.
D'accord. Ouais, je comprends mieux votre corrigé. puisque j'avais mis 3 mois. C'est l'objet de ce matin.
Lui, 8 février, donc 7 avril, à comprendre, m'ont corrigé. Mais donc voilà, mais j'ai pas sanctionné le fait que vous soyez parti sur le fait de proposer un PC au titre que c'était un bâtiment agricole. En fait, ce qui compte, c'est le projet. C'est pas tant l'existence, c'est le projet.
Oui, bien sûr, je l'avais bien intégré comme ça, mais moi, c'était sur le délai. Comme on était sur un bâtiment au départ. À vocation agricole, comme c'était sur un bâtiment travaux sur construction existante, j'ai pas regardé la destination finale, j'ai regardé en fait la modification du bâtiment. Et donc je suis parti sur le droit commun de 3 mois.
Mais donc, comprenez qu'à l'inverse, si j'ai une maison d'habitation dans laquelle je souhaite réaliser un local commercial ou un entrepôt,
oui.
Là, c'est bien la transformation de ce local en entrepôt ou en bureau ou en local commercial qui va être considérée comme étant déterminante. Et là, vous serez d'accord avec moi que je vais déposer une demande de PC.
D'accord.
Vous voyez, l'idée, c'est que finalement, ce qui compte, c'est bien avoir la formalité qui permet d'assurer la complétude du dossier et l'intégralité des pièces qui vont justifier pour une demande, par exemple, relative à un bâtiment commercial, de pièces particulières, ou pour un bureau ou un ERP, de pièces particulières. Donc, c'est quand on transforme un bâtiment, c'est la finalité, finalement, à prendre en compte et pas le… Mais ça, je ne l'ai pas sanctionné lourdement. Je l'ai relevé en disant que c'était une erreur quand vous l'aviez fait, mais je ne l'ai pas sanctionné.
OK, merci.
Donc, si l'on considère qu'on déposait au 1er mars, entre le 1er mars et le 1er avril, il importait que les époux des terres soient prévenus de l'allongement du délai de 2 mois à 4 mois. Donc, 4 mois, 1er mars, donc 1er avril, 1er mai, 1er juin, 1er juillet. Ils obtiennent donc un permis qui est, donc pour le coup, normalement délivré avant le 1er juillet. Au plus tard, ce permis donc sera délivré donc tacitement au 1er juillet. Sachant que comme il y a un avis conforme de la CDPENAF, il est important de bien considérer le sens de cet avis qui sera donc délivré dans le cadre de ce délai d'instruction. Donc, on peut partir de la date du 1er juillet pour envisager ensuite la purge. Alors, tout le monde n'a pas compris. Moi, j'attendais que vous vous positionniez sur des dates, pas de me dire bah, c'est plus de mois à partir d'un délai calendaire ou d'un délai franc qui commence à courir à partir d'eux. C'est-à-dire une espèce de… Imaginez que vous ayez des époux des terres avec eux, avec vous, bah, il faut leur matérialiser, hein, leur donner un contexte qui leur permette de comprendre de quoi il leur tombe. Donc, pour le coup, d'abord le permis est accordé au plus tard le 1er juillet, on sait que l'article L424-5 du Code de l'urbanisme prévoit que le délai de retrait d'une autorisation accordée est de 3 mois. Donc, 1er juillet, 1er août, 1er septembre, 1er octobre. Sachant qu'une procédure contradictoire doit être mise en place au moins 7 à 10 jours auparavant, c'est-à-dire qu'au 20 septembre, théoriquement, s'ils ne sont pas prévenus d'un retrait à venir, ils sont tranquilles. Deux, délai de recours des tiers. Bah, le délai de recours des tiers, lui, dépend évidemment non pas de la date de décision, mais de la date d'affichage de l'autorisation sur le terrain. Donc, les déters vont devoir afficher le permis de construire sur leur terrain. Mettons qu'ils l'affichent, alors ils sont titulaires d'un permis au plus tard le 1er juillet, le 5 juillet, il importait de considérer que la date à laquelle était affiché le panneau n'était pas à prendre en compte puisque ce n'était pas une journée de 24 heures, délai franc, mais donc il fallait considérer que c'était le lendemain, c'est-à-dire le 6 juillet, à partir donc duquel commençait donc le délai de 2 mois franc, 6 juillet, 6 août, 6 septembre, à condition que le 6 septembre soit un jour ouvrable, c'est-à-dire ni un jour férié, ni un dimanche, ni un samedi. Et ajouter qu'à ces 2 mois, il importait parfois de considérer la nécessité d'attendre 15 jours supplémentaires pour engager les travaux, pour avoir la notification obligatoire. Mais en l'état, comme les travaux sont déjà réalisés, c'est moins important, mais qu'il y a cette fameuse notification obligatoire sur le R600-1, un recours formé, donc y compris le 6 donc j'étais au 6 septembre, pourrait de ce point de vue-ci être notifié entre le 7 septembre et donc pour le coup le 21 septembre en la matière. Voilà pour la purge du recours et du retrait. Vous pouviez faire ça sur une fraise, je ne voulais pas établir en la matière, mais c'était ce que j'estimais utile de faire de ce point de vue-ci. Alors, il restait à déterminer ensuite, une fois qu'on a bien vu la formalité et le temps d'obtention de cette formalité, bah, d'abord, est-ce qu'on peut espérer cette régularisation ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr d'obtenir un permis de construire ? À cette question, la réponse est très probablement oui du point de vue du règlement du PLU, puisque le bâtiment a été identifié comme susceptible de changer de destination. Donc, les travaux sont irréguliers par une infraction aux règles de procédure, ils ont été faits sans formalité, mais les travaux ne semblent pas irréguliers du point de vue des règles de fond, puisque le règlement du PLU l'autorise. Alors, évidemment, il importera de déterminer si les changements d'aspect extérieur, par exemple l'ouverture des baies, hein, qui paraît effectivement assez conséquente, la surface de plancher, l'emprise de la construction, répondent bien aux conditions. Par contre, il reste une incertitude, c'est que si on peut présumer la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable, rien n'indique que la CDPENAF rende un avis favorable sur le projet. Et que là se trouve effectivement la turbulence la plus importante, hein, le risque le plus important, car comme il s'agit bien d'un avis conforme en application de l'article 151.11, deuxièmement, aucun permis de construire ne pourra être délivré si, de ce point de vue-ci, aucun permis de construire ne sera susceptible d'être délivré si, de ce point de vue-ci, la CDPENAF a rendu un avis défavorable. Voilà pour la question de la régularisation possible ou non. Enfin, la question que vous posez les déter était d'ici là, d'ici l'obtention de leur permis de construire, risquent-ils un certain nombre de choses, enfin en tout cas, sont-ils exposés à un certain nombre de déconvenus, hein. Les déter vous posent par ailleurs, c'était la question qui était ici, la question de savoir si d'ici la régularisation, ils se trouvent exposés à certaines poursuites, ils sont privés de certains droits. Alors ben, là, il fallait aller mobiliser la séquence contentieux, hein, donc sécuriser les actes. D'abord, premier risque, y a-t-il un risque pénal ? La réalisation de travaux sans formalité constitue bien un délit, une infraction pénale, susceptible d'être poursuivie, ce que prévoit l'article 480-4. Donc, c'est bien une infraction pénale. C'est une infraction pénale qui se poursuit dans un délai maximum de 6 ans, c'est le délai de prescription qui s'applique en la matière, les travaux ayant été réalisés en 2019, si je ne m'abuse, voilà. 2019 plus 6, ça nous met en 2025, nous sommes en 2023, il n'y a pas de prescription d'action pénale. Ça, c'est l'article 8 du Code de procédure pénale qui établit cette prescription. Mais, et c'était là évidemment ce que j'attendais le plus essentiel, l'auteur des travaux n'est pas ni monsieur, madame Déter, ni monsieur, ni madame Déter, mais le vendeur. Donc, en réalité, celui qui peut voir sa responsabilité pénale, car la responsabilité pénale est personnelle, engagée, c'est bien, de ce point de vue-ci, donc le vendeur. Même si monsieur, madame Déter ont conscience, au moment où ils achètent le bien, de prendre la décision d'occuper un bien illégal. Ils sont bénéficiaires des travaux irréguliers, mais le principal responsable, le coupable au sens pénal du terme, c'est de ce point de vue-ci donc l'auteur des travaux. Donc du point de vue de leur responsabilité pénale, ils sont tranquilles. Du point de vue de la responsabilité civile, l'article 480-14 prévoit que sous 10 ans, une mesure de régularisation peut être exigée par l'auteur du PLU ou bien, faute de pouvoir régulariser, une démolition. Alors là, on peut rassurer les déters sur le principe qu'il n'y avait pas de difficulté particulière, en sens que s'ils avaient pris le parti de déposer très rapidement une demande de permis de construire, ils étaient déjà engagés dans une mesure de régularisation. Donc, on ne pouvait pas leur reprocher de ne pas l'avoir fait. Et puis, le bâtiment existait de toute façon avant la réalisation du projet. La régularisation est possible. Elle écarte ipso facto la mesure de démolition. Et de toute façon, il ne s'agit pas d'une construction ayant été établi de façon régulière, mais transformé de manière régulière. Donc, il ne vaut pas, évidemment, s'exposer à une démolition totale du loft qui aura été réalisé dans le cadre de la grange. Donc, de la même manière, du point de vue donc, de la responsabilité civile, il n'y a pas donc, de difficulté particulière à ce titre. La responsabilité pénale ne leur incombe pas. La responsabilité civile ne pourra pas, du point de vue au moins de l'article L480-14, emporter quelques conséquences que ce soit. Voilà. Alors, si vous aviez suivi le parcours urbanisme réglementaire, vous auriez pu néanmoins considérer un risque qui était effectivement supporté par les déter, dont on a fait état dans le corrigé de la première épreuve, qui concernait précisément le parcours urbanisme réglementaire. Je ne sais pas si vous... Alors, je ne demande pas que... Je ne demandais pas de le traiter, mais si vous aviez eu à prendre en considération de façon plus large la question posée, il y a un risque qui quand même est à la charge ou qu'assument les époux des terres d'ici la régularisation, c'est si jamais leur loft est l'objet d'un incendie ou est détruit par un événement climatique quel qu'il soit, comme le bâtiment a été transformé de manière irrégulière du fait de l'absence de permis de construire, ils n'auront pas le droit de le reconstruire. Puisque ce qui est autorisé en zone agricole, c'est un changement de destination d'un bâtiment existant. Ce n'est pas la construction d'une maison d'habitation, laquelle est liée à une exploitation agricole. Donc, il faut quand même effectivement qu'ils s'y prennent assez vite, parce que le risque, c'est que, on ne peut pas leur souhaiter évidemment que ça se produise, mais le risque, c'est que s'il devait y avoir un sinistre entraînant la démolition, enfin la destruction plus exactement du bâtiment, les déter auraient tout perdu. Et ça, du point de vue du notaire qui assure la signature de l'acte de vente, enfin qui assure l'authentification de l'acte de vente, c'est évidemment le point qui sera le plus important. Et dans son devoir de conseil, le notaire aura à prendre en charge l'information des déters sur les risques qu'ils prennent à acheter un bâtiment dont ils savent pertinemment qu'il est illégal. Stéphane.
C'est bien au sens de l'article, je crois, L111-15, les règles du PLU pour la reconstruction à l'identique.
Exactement. Au surplus, les règles du PLU peuvent avoir écarté effectivement l'application de cet article L111-15. Mais comme l'article L111-15 fait partie du RNU, qu'il est envisagé dans la séquence hiérarchisée, je crois, du parcours urbanisme réglementaire, vous n'aviez pas à intégrer ce point-là. Il n'y avait pas d'attente de ma part sur ce point particulier.
Ok. Mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé.
Logique. Je ne peux pas vous le reprocher. Maintenant que vous l'avez bien intégré, c'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte. C'est-à-dire, du point de vue du notariat, l'achat ou la vente de biens irréguliers est un élément d'alerte évident. C'est pour ça que vous avez des demande de DACT parfois très très lointaine par rapport à des travaux qui ont été réalisés, tout simplement parce que les notaires acculent les vendeurs à l'obligation d'aller déposer cette DACT pour provoquer finalement le contrôle du récollement de l'administration qui, de ce point de vue-ci, doit au bout de 3 mois, si elle n'a pas pris parti de se déplacer après le dépôt de la DACT, admettre qu'elle va délivrer cette attestation de non-contestation des travaux ayant été réalisé. De ce point de vue-ci, le notaire peut procéder à la vente. Mais souvent, comme il est pressé, ce notaire adresse ou fait adresser par le pétitionnaire le lundi la DACT, puis le mardi demande l'attestation de contestation de la conformité, qui normalement, sauf si une visite a lieu, ne peut pas être délivrée avant l'échéance de ce délai de 3 mois. Si à l'inverse, il s'agit de travaux sauvages, comme c'était le cas dans le cas des déters, là, deux possibilités. Les déters ne veulent pas acheter. Le vendeur trouve quelqu'un d'autre et ils perdent l'opportunité d'acheter le loft. Les déters veulent bien acheter, mais imposent au vendeur de faire lui-même la formalité avant d'acheter, ce que le vendeur parfois ne voudra pas faire de ce point de vue-ci. Troisième hypothèse, les déters achètent en l'état et prennent pour eux la responsabilité d'acheter ce bien en l'état. Ce n'est pas interdit, mais ce qu'il est indispensable de bien prendre en considération, c'est qu'ils doivent avoir été correctement informés des risques qu'ils prennent en procédant de la sorte. Et ça, c'est le boulot du notaire. Voilà. Annie, Delphine, Marion, Stéphane, je commente au-delà du strict corrigé le contexte sur lequel nous trouvons. Avec cette correction, est-ce que vous avez l'impression que ce que je vous ai demandé vous paraît rétrospectivement très compliqué, vous semble difficile? J'étais content de mon cas parce que j'arrivais à mêler finalement un peu toutes les séquences de la séquence, du parcours pour le coup. C'est mon facteur qui passe me poser à la fenêtre mon courrier, donc je le salue aimablement. Et il a oublié un deuxième courrier, visiblement, parce qu'il est repassé 2 fois. Donc c'est pour ça que je n'ai pas un tic, je salue juste le facteur qui frappe à la fenêtre. Pour ma part, écrit Marion, je faisais seulement écouter pour le parcours de printemps. Ah ben, très bien, Marion, c'est Marion, si vous êtes engagé sur le parcours ADS, vous avez face à vous un sujet du type de ceux qui vous attendent de ce point de vue-ci. Anis, pareil, vous êtes dans le parcours ADS. Ils viennent chercher de l'info, hein, ces gens-là, hein, c'est normal. Hein, mais voilà typiquement le type de sujet que vous auriez à prendre en considération. Dans le cas d'Annie qui travaille dans l'immobilier, c'est des choses qu'elle doit connaître au jour le jour. Hein, l'irrégularité de travaux ayant été faits dans une construction à vente, évidemment, ce sont des éléments importants. Pour le coup, Delphine, Stéphane, ça va ?
Ça va sur la première partie, mais c'est sur la partie contentieux. J'aimerais bien avoir votre corrigé, en fait, écrit sur cette partie pour que je puisse bien me. La partie contentieux, c'est pas encore ma tasse de thé.
Ok, ça marche. Delphine ?
Idem, ouais, cette partie-là, j'aurais bien aimé.
D'accord.
Après, j'ai entendu que vous proposez aussi une copie pour ne pas avoir faire le corrigé si jamais il n'est pas fait.
Oui, mais c'est parce que je suis un peu feignant. Hein. Mon obligation, c'est normalement de vous assurer un corrigé. Alors, il peut être oral, mais si vous avez besoin qu'il soit écrit, pourquoi pas. Ce que je vais faire potentiellement, c'est de voir si pareillement… Alors, je ne sais pas quel était le meilleur résultat. Je peux aussi vous proposer une des meilleures copies pour que… Vous voyez, c'est seulement… Mais je vais aussi assurer la question…
Je pense qu'Elodie, elle doit être pas mal.
Ouais, alors Elodie, bah oui, elle a moins de mérite. Alors, elle n'est pas là, je ne veux pas dire de mal d'Elodie, mais Elodie a évidemment, elle travaille à l'instruction. Je ne sais pas quelle était sa note, mais je pense qu'effectivement, la copie d'Elodie pourrait vous faire un beau corrigé. Ouais, ça vous irait, Stéphane ?
Bien sûr.
Mais je ne veux pas qu'elle me réclame des droits d'auteur, donc je vais attendre son accord au préalable.
Très bien.
Donc voilà pour ces éléments-ci. Des questions ?
Non.
Vous êtes en plein dans le droit de préemption urbain. Ça va, vous ne transpirez pas trop sur terrain bâti, non bâti, apport en SCI, VEFA. C'est un peu techno, là.
Je vous avouerai que je n'ai pas encore eu le temps vraiment de me plonger
Il va passer son week-end de Pâques sur le droit de
préemption. Les vacances arrivent, donc, ouais. Pour la région Rhône-Alpes. Donc, c'est bon.
Ah, ben voilà, très bien. Bon, ben, parfait. Il n'y a pas de code de l'urbanisme en chocolat, mais faites pas d'indigestion, donc très bien. Et Delphine, vous avez commencé ?
Non, pareil. Pas encore commencé, mais pareil, on est en vacances ce soir.
Ben, chacun fait ce qu'il veut de ses vacances. Hein. En tout cas, ce que je vous donne comme conseil d'amis, si je peux m'exprimer ainsi, c'est prenez pas trop de retard sur le droit de préemption, parce que derrière, il y a une autre séquence qui est quand même lourde, c'est la séquence aménagée sur le lotissement et sur la zone d'aménagement concertée. Donc, essayez quand même de vous tenir à au moins le respect du mois, c'est-à-dire ne pas… alors, si vous travaillez pendant les vacances, vous allez travailler pendant les ponts du mois de mai, donc je ne suis pas trop inquiet de ce point de vue-ci. Mais voilà, essayez quand même de ne pas accuser trop de retard parce que le mois de mai va être un mois un petit peu intense. Il y a quasiment deux séquences en une, hein, sur la ZAC et sur le lotissement de ce point de vue-ci, d'où la webconférence intermédiaire. J'ai eu Marion tout à l'heure, Annie aussi, bah, je crois qu'on est quitte. Bonne continuation, je vais regarder quand même les messages dans le chat. Non, urbanisme père. Ah oui, donc Annie, vous êtes restée là juste pour le fun, puisque vous n'êtes faites pas ADS. Mais vous tirez parti du corrigé pour vous. Très bien. Bonne journée.
Merci.
Sur le chocolat.
Je vous remercie pour vos réponses dans le forum sur toutes les questions que j'avais posées la dernière fois.
C'est moi qui vous remercie, Stéphane. Non, mais il faut bien que le forum fonctionne. Je ne peux pas dire « Ah, ben, le forum ne fonctionne pas » et puis derrière, pester si des gens posent des questions. Maintenant, j'avoue que le registre, m'avait un peu échappé. Et que je me rends à l'évidence aussi que la participation pour équipement public exceptionnel, il faut aussi que je la traite à l'avenir dans le cadre des fiches, parce que visiblement, vous étiez quelques-uns à avoir besoin de ce traitement-là. Donc pas de souci. Et je n'ai pas repris encore, moi, le contenu de la séquence autorisée, mais vous n'êtes pas concerné, aucun d'entre vous n'est concerné, sauf Marion, où il faut que je fasse quelques évolutions, mais ça sera fait d'ici peu. Bonne fin de semaine. À bientôt.
Merci, vous aussi.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.